Les sentiers du sauvage. Ossip Zadkine écrit : Le plongeon dans la nature me rend plus droit et plus flexible. Rencontre avec Laurent Lignac à Saint-Cybrané.
Je m'appelle Laurent Lignac. Je suis moniteur escalade et spéléologie depuis 35 ans à peu près. Je suis de Dordogne, du nord du département, à Tortoirac exactement. C'est un petit village qui est au pied d'une falaise et au bord d'une rivière. À proximité du rocher, d'une manière générale. Que ce soit en escalade, en spéléo, ou dans les activités de travaux sur corde que j'ai pratiqué beaucoup et que je fais encore un petit peu, c'est toujours en rapport avec le rocher, la verticalité pour une bonne partie, et c'est toujours le milieu minéral. C'est quelque chose qui semble figé, inamovible, et en même temps j'ai le sentiment que c'est le témoin de quelque chose qui nous parle, qui fait dans notre région partie intégrante du paysage, et c'est quelque chose où, enfin, c'est un endroit où je me retrouve vraiment, ouais. Mes parents étaient commerçants, travaillaient beaucoup. Donc je parle d'une époque où il n'y avait pas Internet. Il y avait trois chaînes à la télé, si je me rappelle bien. Et donc on passait pas mal de temps dehors. Les mercredis après-midi, les samedis et les vacances scolaires, on les passait beaucoup dehors à faire... du vélo et dans la falaise qui était au-dessus du village. C'est un lieu où on a fait beaucoup de cabanes, où on a passé énormément de temps à faire la guerre des boutons avec les gens du village. Et c'est un des endroits dans la nature où j'ai passé le plus de temps enfant, et au bord de la Dordogne, de la Lauvézère, pardon, à la pêche. Les adultes n'étaient pas présents vraiment. J'ai dû aller, j'ai amené mon père une fois sur le lieu où on faisait les cabanes, où on passait nos mercredis. On avait monté une bibliothèque dans une petite grotte avec. Des tapis de mousse qu'on avait rentrés, on avait fait un peu comme les blaireaux peuvent faire. Et on s'éclairait avec des cierges volés à l'église. Et les adultes, ils n'avaient pas leur place. Et ceux qui pouvaient y venir étaient vraiment privilégiés. Donc mon père, j'avais amené mon père une fois. Et je sais qu'on avait amené une... Je me souviens qu'on avait amené une remplaçante instit. Donc je pense qu'on était tous secrètement amoureux. Et on lui avait proposé de venir avec nous visiter notre petit royaume dans les rochers. Alors la proximité, c'est plutôt là où je vis, dans le Sarladais. Je la trouve plutôt riche, là où on est. On est sur des coteaux, avec un paysage anciennement très agricole qui est en train de se refermer petit à petit. Il est assez riche et en même temps, je vois sa perte petit à petit. Voilà. Il y a moins d'oiseaux qui chantent, il y a moins d'insectes. C'est surtout ça. Au niveau de la flore, il me semble plus varié. On a la chance d'être sur un coteau calcaire plein sud, donc on a sur le terrain 7 ou 8 espèces d'orchidées différentes. Plein d'arbustes divers qui sont là justement parce que c'est une ancienne vigne qui est en train de se reboucher, donc les végétaux qui viennent, les premiers, sont plus variés au début. J'ai l'impression d'être dans un endroit privilégié. Mais là, c'est évident. Alors, c'est un constat que font les scientifiques, mais c'est quelque chose que tout le monde voit au quotidien. C'est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'on voit la baisse de la biodiversité au fait qu'il y ait moins d'animaux morts au bord des routes. C'est assez paradoxal, non ? Avant, on roulait et on voyait des cadavres d'écureuils, de hérissons notamment, en pagaille. On n'en voit plus. Là, on voit de moins en moins de bestioles traversées sur les bords de route. Les pare-brises sont de plus en plus propres. Je pense que c'est évident que tout le monde le ressent au quotidien, quand il y réfléchit. Parce que c'est quelque chose qui vient progressivement et c'est un peu comme la grenouille qu'on met dans l'eau froide, qu'on met petit à petit à réchauffer. C'est un peu le même cas là. Le processus, il est à la fois très rapide à l'échelle de temps géologique, mais à la fois très lent pour l'homme. Du coup, c'est moins choquant que si du jour au lendemain, les oiseaux avaient arrêté de chanter, les écureuils de traverser la route du jour au lendemain. Là, tout le monde se serait récrié. Donc c'est très rapide, à la fois c'est suffisamment lent pour qu'on s'y habitue. Les politiques mettent en place des mesurettes voilà, qui renient souvent, on le voit pour les pesticides récemment, on en a repris pour 10 ans. Les impératifs sociaux font qu'on fait des concessions à une partie de la population au détriment d'une autre partie. Et puis ce sera l'inverse. Je suis un peu sceptique, pessimiste sur l'avenir de la biodiversité à brève échéance. À plus longue échéance, je pense qu'il y aura toujours quelques écureuils, quelques hérissons qui seront planqués dans des coins et puis qui se reproduiront quand ils en auront la possibilité. Donc c'est pas la nature qui est en danger, c'est l'image qu'on en a là. Cet espace qui jusque-là était plutôt protégé, même si la nature a subi les agressions de l'homme depuis... depuis la préhistoire. Hein. Mais là, les changements sont très très rapides et il n'est pas sûr qu'on ait très facilement la possibilité d'être inséré dans ce biotope. Alors, est-ce que c'est essentiel ? C'est une question difficile. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement essentiel dans la manière que l'on a de vivre maintenant. On a dissocié toutes les tâches, tous les savoirs. On n'a plus besoin de savoir quand on mange comment on produit des carottes, des salades ou des topinambours. Donc c'est pas un besoin au sens littéral du terme. Malgré tout, le fait d'avoir cette distance qui se met en place. Entre le vivant, la nature et l'homme, fait que du coup, c'est plus compliqué d'y trouver sa place dans l'espace naturel et peut-être dans l'espace humain. Il me semble qu'avoir une conscience... des biotopes, des paysages, de leur histoire, de leur fonctionnement. Il me semble que c'est important pour être peut-être plus en accord avec les autres et avec soi-même peut-être. Le rapport à la nature, c'est pas un besoin, mais c'est malgré tout indispensable pour comprendre sa place. La place que l'on a dans cette nature. Je suis né au pied d'une falaise. J'y ai joué, rêvé. Donc je pense que c'est pas tout à fait innocent si je suis moniteur d'escalade et de spéléo. Alors c'est pas que parce que j'étais au pied d'une falaise, sinon tous les enfants des villages sur lesquels il y a une falaise seraient tous moniteurs d'escalade ou de spéléo. Donc ça correspond aussi à quelque chose à mon parcours personnel. Mais les raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ce type d'activité sont liées évidemment au rapport que j'ai depuis tout petit aux rochers, aux cailloux, aux falaises. Donc le lien, il est évident. Donc j'ai travaillé dans plusieurs structures qui faisaient ou qui font de l'encadrement d'activités sportives. Et donc moi, je m'occupais de l'escalade et de la spéléo. Et là, maintenant, je suis à mon compte pour la même chose. Le public principal, c'est plutôt les enfants, donc avec les scolaires. Il y a l'été, les colonies de vacances, qui sont un public assez important. Puis on travaille pas mal aussi avec ce qu'on appelle des publics spécifiques, qui peuvent être relativement variés. Ça peut aller de centres pour des adolescents en difficulté, des centres d'aide pour le travail. Ça peut être également pour des prisonniers. On travaille quelquefois avec certaines prisons pour des détenus qui sont en fin de peine. Donc c'est des publics assez variés. Et à chaque fois, pour moi, l'escalade et la spéléo, c'est pas une fin en soi. C'est plutôt un support. C'est un support pour faire passer une vision du rapport à la nature que j'ai, donc qui est effectivement liée aux rochers et surtout pour la spéléo, une dimension assez importante concernant la biodiversité. Donc évidemment les chauves-souris, puisque c'est quand même l'animal emblématique de la spéléo et des grottes. Et puis c'est un animal qui est quand même assez rigolo et tellement particulier. Il y a énormément de choses qui peuvent parler aux gens. Et en fait, on montre aux gens que même un espace fermé, comme une grotte, sans soleil, sans énergie qui y arrive, que malgré tout, il y a de la vie en quantité. Et le milieu souterrain a une particularité, c'est que c'est un biotope qui est très fermé, qui est très stable, et où tout changement impacte de manière durable, visible et importante le milieu. Les populations sont génétiquement peu développées, puisqu'il y a peu de brassage génétique, et donc elles s'adaptent peu. C'est du coup à partir de la spéléo et de la biodiversité du milieu souterrain qu'on peut parler justement de la préservation et de l'importance de la préservation des écosystèmes et des biotopes extérieurs. Parce que c'est à une petite échelle, parce qu'il y a ce côté un peu îlot, un peu fermé. On retrouve la même chose avec les îles des Galapagos par exemple, qui sont un milieu fermé. Un espace délimité par la mer où une biodiversité s'est installée de manière extraordinaire. Donc là, avec une grande variété malgré tout. Mais on comprend bien que sur un petit espace comme ça, si on intervient de manière négative, les impacts sont directs et importants. Donc pour ça, la spéléo est une activité qui est vraiment privilégié pour faire passer des messages là-dessus. Le lieu s'y prête peut-être aussi. On est dans le noir, dans un espace un petit peu fermé, convivial. C'est un espace où les gens souvent Je dis les gens parce que ce n'est pas toujours les enfants, loin de là. Ils sont dans un espace un peu particulier, qui est un peu déstabilisant. Et du coup, l'écoute qu'ils peuvent avoir est peut-être un petit peu plus étoffée, un petit peu plus précise. Et ou peut-être, c'est pour ça que je continue à le faire, je peux faire passer quelques messages auprès de quelques personnes et qui seront pour partie retenues et qui auront peut-être un petit impact. Voilà. C'est ce qui fait que je continue à le faire, en dehors du fait que c'est une activité qui est quand même assez valorisante, à titre personnel, évidemment. Mais c'est, voilà, le moteur, c'est l'idée que je peux peut-être faire passer des choses dans ce lieu-là, à ces moments-là précis, qui peuvent peut-être déclencher quelques vocations ou quelques prises de conscience. C'est évident que dans ces deux activités, on a un rapport du corps au milieu qui est très actif. Plus actif peut-être que la marche, la randonnée, où on peut randonner sur des chemins, voilà. Mais là, il y a un rapport physique frontal. On se cogne, on se râpe. La pesanteur a tout son sens. Les notions d'équilibre deviennent bien plus prégnantes. L'effort physique est particulier. Il est sur des groupes musculaires dont on n'a pas l'habitude forcément d'utiliser. Et c'est des motricités qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. On marche rarement à quatre pattes. Tout le monde ne monte pas, ne grimpe pas dans des arbres ou sur des échelles ou sur des toits. Donc c'est des motricités qui sont un peu particulières et du coup qui confrontent, je pense, les gens à quelque chose qui est fondamental dans le sens où ça vient de loin. Je sais pas trop comment l'exprimer sans que ça fasse trop métaphysique ou mais on, voilà, on expérimente le milieu de manière physique, parfois un peu violente ou pas forcément toujours très agréable. Et en même temps, il me semble que les gens y retrouvent un plaisir. Qui peut être un plaisir un peu enfantin, de marcher à quatre pattes, de ramper, de se salir. Il y a le côté peut-être symbolique de passage, de passer dans un petit trou en spéléo, où il y a la symbolique de monter, de s'élever aussi. Et peut-être que ces efforts-là, et ce rapport physique peut-être prédispose à une écoute et à une réception des choses un petit peu différentes. Parce que c'est pas anodin, parce que peut-être ça vient de loin. Voilà, c'est une reconnexion, une connexion physique intense, complète à la nature. C'est peut-être pour ça que il me semble que les messages qu'on peut faire passer dans ces situations-là ont plus de valeur, ou du moins pas forcément plus de valeur, mais plus de chances d'être entendu et d'avoir une résonance après. Parce qu'il y a cette confrontation au milieu qui prépare l'esprit peut-être.